10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Et d'abord, un grand merci à vous tous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux chaque dimanche à nous suivre. Gilets jaunes hier dans une colère noire, ras-le-bol des taxes, ras-le-bol des fins de mois difficiles, ras-le-bol de ne pas se sentir écouté, entendu, ras-le-bol aussi d'Emmanuel Macron, c'était un des slogans. Mobilisation réussie, qui se poursuit d'ailleurs pour certains ce matin, mais pas de raz-de-marée. Mobilisation sous tension, un mort, plus de 400 blessés, dont 14 gravement, des échauffourés. Un mouvement du 17 novembre qui dit sans doute les fractures du pays. Alors, est-ce un mouvement d'humeur ou une jacquerie qui pourrait s'étendre? Comment le gouvernement entend-il y répondre? Avec nous aujourd'hui, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour François Drugy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous au lendemain de ce mouvement de colère, sur lequel on attend évidemment votre analyse, vos réponses, et puis nous parlerons avec vous aussi des autres enjeux de votre charge ministérielle, la transition écologique. La France en fait-elle assez? Ferez-vous mentir le pessimisme de Nicolas Hulot qui, il y a près de 3 mois, avait décidé de jeter l'éponge? Pour vous interroger, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour
et
à
Damien
tous.
Et Damien Fleurot, chef bonjour. Du service politique de CNews. Damien, qui vous pose la première question.
Oui, François Drugy, après cette mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, un peu moins de 300 000 personnes, nous dit le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'Emmanuel Macron peut rester silencieux après cette démonstration?
D'abord, moi je voudrais dire quelques mots sur cette mobilisation qui a été importante, mais qui n'est pas non plus massive. Il faut en tenir compte, sans évidemment considérer que c'est tous les Français qui s'expriment au travers de ces mobilisations qu'on a appelées les Gilets jaunes.
300 000 personnes à peu près, ce n'est pas massif.
282 000 personnes. Non mais je fais une comparaison simple. Quand François Hollande était président de la République, à peu près à la même période de son mandat, au bout d'un an et quelques, il y a eu de très grandes manifestations contre la loi dite du mariage pour tous. On a été jusqu'à 1 million de personnes dans les rues. Donc vous voyez que souvent, dans les mandats présidentiels, il y a des mobilisations citoyennes, en quelque sorte, hein, qui ne sont pas forcément sociales ou qui ne sont pas forcément politiques.
Donc le président de la République a raison de ne pas s'exprimer immédiatement.
Il s'est exprimé
avant la mobilisation.
Ces derniers jours, à de nombreuses reprises, puisqu'il s'est exprimé lorsqu'il était dans un déplacement,
son silence aujourd'hui peut
dans les Ardennes, en Picardie, dans le nord de la France,
et
mais
sur
aussi
Europe 1.
Il s'est exprimé tout à fait, et il s'est exprimé aussi dans une interview télévisée cette semaine, quand il était sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc je crois que nous sommes tout à fait à l'écoute des Français. Quelle que soit leur situation, y compris celles et ceux qui étaient, j'allais dire, dans la rue, mais sur les routes, puisque là, c'est une mobilisation d'une nature nouvelle. Ce n'est pas dans les rues des villes, ce n'est pas sur les places, c'est plutôt sur les ronds-points, au carrefour des routes, parce que justement, c'est parti au départ de cette question des carburants, mais qu'aujourd'hui, ça a dépassé, on le voit bien, très largement, cette préoccupation des carburants.
Mais alors justement, là, on voit que certains de ces manifestants ont passé la nuit sur les routes, des blocages se reforment, on parle de 150 sites au total. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces manifestants qui veulent poursuivre le mouvement?
Avant que la manifestation, enfin les manifestations aient lieu, moi j'avais appelé à la plus grande prudence et à avoir un esprit de responsabilité quant à la sécurité. Je faisais partie de ceux qui disaient attention aux affrontements possibles entre automobilistes qui manifestent et automobilistes qui ne manifestent pas. C'est un type de manifestation qui présente des risques importants et on l'a vu hier. Avec un décès dès le tout début de la manifestation en Savoie. Il y a eu plus de 400 blessés sur tout le territoire français.
Mais du coup, est-ce que vous appelez à l'arrêt?
Ce sont plutôt d'ailleurs parmi des manifestants ou parmi d'autres automobilistes. Il y a un agent d'ailleurs du ministère des Transports, de mon ministère, un agent des routes qui a été aussi agressé.
Et beaucoup de
ce sont des risques. Il faut absolument tout faire pour réduire ces risques. C'est aussi une responsabilité de celles et ceux qui manifestent. Encore une fois, manifester sur la route, c'est encore plus dangereux que tout autre type de manifestation.
Mais est-ce que, clairement, vous appelez à l'arrêt de ce mouvement ?
Ah ben, moi, j'appelle évidemment à ce que on sache sortir. Il y a un temps fort de mobilisation, c'est comme ça dans tout temps fort de manifestation. Un samedi, c'est assez classique, ça a duré une journée. Il faut savoir, en effet, ensuite revenir à la normale, parce qu'encore une fois, c'est un niveau de danger et de risque qui est élevé par rapport à celles et ceux qui circulent sur la route. Car autant le droit de manifester doit être parfaitement reconnu, autant le droit de se déplacer, le droit de circuler doit également être reconnu. Et d'ailleurs, les forces de police et de sécurité, que je veux saluer aussi ce matin, qui ont beaucoup donné hier, avec beaucoup de doigté, hein, avec un sens aigu, je crois, de la modération, ont dû, à certains endroits, évidemment, débloquer des axes parce que, nous l'avions dit dès le départ, il n'était pas acceptable que des axes routiers soient totalement bloqués.
Mais François de Rugy, qu'entendez-vous aujourd'hui de ce mouvement ? Vous l'avez dit, ce n'est pas la première manifestation sociétale, entre guillemets, qui s'exprime. Qu'est-ce qu'il exprime, ce mouvement ? Est-ce que c'est une forme de jacquerie anti-taxe ? Est-ce que c'est une forme de poujadisme contemporain, comme a pu le dire le président de la République ? Et vous, comment pouvez-vous y répondre, à part dire « on ne change rien » ?
Moi, vous savez, j'ai discuté avec des gilets jaunes, avec des citoyens impliqués dans ce mouvement des gilets jaunes, lundi dernier. Donc, il y a quelques jours.
Mais hier, vous n'étiez pas à la rencontre, j'imagine,
non,
des Gilets jaunes.
Non, parce que je crois que ça aurait été assez malvenu. Mais je l'ai fait alors que j'étais en déplacement en Vendée, lundi. Il y avait eu un appel à un rassemblement là où j'allais. Et je suis allé au contact, directement, discuter, même si, évidemment, c'était difficile, même de se parler. Et je constate d'ailleurs que ça a été difficile aussi entre automobilistes. Et d'ailleurs, j'ai eu des témoignages de la journée d'hier, de gens qui ont dit, alors qu'on était dans notre voiture et qu'on voulait circuler, on s'est fait insulter, on s'est fait... ça, il faut tout faire pour éviter que dans notre pays, les gens en viennent les uns contre les autres.
Mais
ça,
vous,
c'est aussi notre responsabilité.
Mais vous, que pouvez-vous faire
politique.
Pour réduire
Après,
cette fracture
bien,
qui s'exprime ?
Si Emmanuel Macron a été élu en 2017, et si moi je l'ai soutenu, c'est justement parce qu'il a dit on va prendre à bras-le-corps un certain nombre de problèmes, sans partir de postulats idéologiques de gauche ou de droite, on va régler des problèmes qui avaient été laissés en plan depuis des années. Et le problème de la dépendance au tout pétrole, au tout diesel, au tout voiture, c'est un problème qui a été laissé en plan depuis des dizaines d'années.
Mais ce message aujourd'hui n'est pas entendu. C'est pour ça qu'il y avait ce mouvement des Gilets jaunes hier, entre autres.
Alors, je crois que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'expriment. Il y a l'inquiétude immédiate, qui est celle des factures de carburant, évidemment. Et je suis évidemment prêt à ce que nous y revenions sur les solutions que nous proposons pour accompagner ce changement qui est nécessaire. Parce que si on ne fait rien, il y a des gens qui appellent à ce qu'on supprime les taxes sur les carburants ou est-ce qu'on les baisse.
Laurent Wauquiez, notamment, le président des Républicains, qui vous a demandé d'arrêter la hausse prévue en janvier.
Voilà, on fait cette politique-là. Et on attend que les prix du pétrole baissent. Et puis demain, ils remontent sur les marchés mondiaux. Et ce ne sera pas dû aux taxes. Hein. Comme au début octobre, ce n'était pas dû aux taxes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on dit aux Français ? Parce que si on arrête le mouvement que nous faisons sur la taxe carbone, ça veut dire aussi qu'on arrête tous les dispositifs d'accompagnement des Français que nous avons mis en place avant la hausse des prix du pétrole. Vous savez, quand on a fait voter par les députés de la majorité la prime à la conversion, c'est-à-dire la prime à la casse des vieilles voitures, des vieux diesels qui consomment beaucoup, qui polluent beaucoup, pour acheter des voitures qui consomment moins et qui polluent moins, eh bien, nous l'avons fait alors que les prix du pétrole n'étaient pas spécialement élevés. Et donc, moi, je dis aux Français, attention, si on arrête tout aujourd'hui, ça veut dire,
mais
comme
c'est pas
il y a
forcément
10 ans,
tout arrêter, c'est
que
la façon
le problème,
de
il ressurgira dès que les prix du pétrole
c'est
vont
pas
réaugmenter.
Forcément, les Français, vous ne demandent pas forcément de tout arrêter, mais non, c'est la façon et le rythme des réformes, enfin, quand même. On le voit bien, l'impopularité à un niveau record d'Emmanuel Macron aujourd'hui, du Premier ministre également. Est-ce que vous pouvez mener au rythme du temps de la campagne présidentielle, mais la façon dont vous l'avez énoncé,
vous dites,
ces réformes-là ?
Vous dites les Français ne demandent pas de tout arrêter. En effet, en tout cas... Moi, je ne vais pas...
Pas tous les Français, mais...
Voilà, mais ce que je répondais à Mme Jouan sur le fait que des responsables politiques, des partis d'opposition, comme M. Wauquiez, qui a été ministre à une époque, il a été au gouvernement de la France. C'était justement l'époque où les prix du pétrole ont connu des pics. En 2008, c'était 140 dollars le baril, deux fois plus qu'aujourd'hui.
Donc,
qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? On a fait en sorte... On a attendu que ça baisse, hein, on a prié pour que ça baisse, et une fois que les prix du pétrole avaient baissé, on n'a rien fait. Je l'ai dit aussi il y a 20 ans, en 1998. Déjà, l'idée était là, elle avait été votée par le Parlement, d'égaliser les taxes diesel, essence. Alors. Et en 2000, parce que les prix du pétrole augmentent, on arrête tout. C'est-à-dire, devant les difficultés, on arrête tout. Et qu'est-ce qui se passe ? 20 ans après, eh bien, le problème n'est pas réglé. Et même, on a mis les Français dans un piège encore plus grand qu'il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas deux tiers de véhicules diesel en circulation, il n'y en avait qu'un tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on est passé de deux tiers à un tiers dans l'autre sens, mais dans le mauvais sens. Et donc, nous sommes là pour régler les problèmes
et
accompagner les Français dans le changement. Vous savez, le changement, moi je comprends qu'il y ait des gens qui puissent dire qu'il ne faut rien changer. Mais nous, on a été élus pour changer. Notre mandat en 2017, c'est de conduire des changements et c'est d'accompagner les Français dans ce changement, pour en faire d'ailleurs des acteurs du changement et non pas de subir les conséquences de l'inertie et du conservatisme comme la hausse des prix du
pétrole. François Drugy, il y a quand même des voix qui s'expriment. Danny Cohn-Bendit, par exemple, n'a pas eu peur de dire que la fiscalité écologique sur l'essence était justifiée. En revanche, Nicolas Hulot, dont vous occupez aujourd'hui la place, est resté silencieux. Est-ce que vous regrettez ce silence? D'ailleurs, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis cette affaire?
Non, je ne l'ai pas eu en contact, mais je l'aurai sans doute dans les jours qui viennent. Et il doit s'exprimer, je crois, dans une grande émission de télévision. Donc, évidemment,
mais
je
vous regrettez son silence, parce qu'après tout, c'est lui qui était aussi à l'origine de ces idées de taxe carbone qui augmente.
C'est exact. Cela a été voté, pas simplement à l'origine de l'idée, lors de la mise en œuvre, de l'adoption de la mesure de hausse de la taxe carbone avec une prévisibilité. C'est-à-dire que chaque année, on dit aux Français, dès le début du mandat, chaque année, ça va augmenter un petit peu.
À faire passer ce message.
Et donc, moi, je suis d'ailleurs très heureux qu'il ait fait adopter cette mesure quand il était ministre. Et aujourd'hui, à la place qui est la sienne, qui est une autre place, qui n'est plus celle de responsable gouvernemental, je ne doute pas qu'il continuera évidemment à soutenir ses idées et à dire, à expliquer. Parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, parce qu'en effet, je crois que c'est aussi le message que les Français nous envoient, en tout cas ceux qui protestent, c'est qu'il n'y a pas assez de pédagogie, peut-être pas assez de contact direct, notamment des membres du gouvernement. Et moi, j'en prends ma part pour aller au contact direct des Français, pour échanger, pour entendre d'abord. Il faut toujours entendre, il faut toujours être attentif. Nous avons été aussi élus avec un message, on avait dit, il faut être... faut faire preuve d'attention, c'est-à-dire être attentif et attentionné.
Alors, pédagogie,
à ce que disent les Français, notamment ceux qui sont dans les difficultés.
Meilleure concertation. Ce matin, le patron de la CFDT, Laurent Berger, disait sur Europe 1, appeler Emmanuel Macron à réunir rapidement syndicats, patronats, associations pour construire un pacte social de la conversion écologique. Vous saisissez cette perche, vous dites, après tout, peut-être qu'on n'a pas assez fait attention au corps intermédiaire. Banco, on y va?
Ah, mais si un grand syndicat comme la CFDT a des propositions à faire en la matière, y compris des propositions d'équilibre budgétaire, hein, c'est-à-dire, vous savez, les recettes. Moi, je préférerais être un ministre qui annonce des baisses d'impôts. Seulement, il faut bien, à un moment donné, un, avoir des leviers d'action pour le climat.
Non, mais très concrètement, est-ce que vous êtes
pour financer
prêt à organiser chez vous, dans votre ministère, une grande réunion avec tout le monde?
Je suis tout prêt à le faire, dans l'esprit d'ailleurs du Grenelle de l'environnement. Après, ne croyez pas, Madame Jouan, que ça fera disparaître, comme par enchantement, les divergences, d'une part, de points de vue, qui existent, qui sont réelles, qui sont normales, ça fait partie de la démocratie. Ce qui est un problème, c'est quand des responsables politiques ne tiennent plus la même position, ne tiennent plus le même discours quand ils sont dans l'opposition que quand ils étaient aux responsabilités.
Là, en l'occurrence,
puis,
on parle des syndicats.
Par ailleurs, oui, mais vous savez, tout le monde n'est pas d'accord. Parmi les syndicats,
non,
vous savez, entre la CGT et la CFDT, sur la politique énergétique, par exemple, c'est pas du tout la même position. Et peut-être qu'avec le MEDEF, c'est encore une autre position. Et
mais
puis peut-être qu'avec les associations
de
consommateurs, c'est une autre position. Et c'est intéressant.
Peut-être les débordements que l'on a vus hier.
Oh, ça, vous savez, là, je crois qu'il faut pas. Non, le mouvement qui a eu lieu hier, ce n'est pas un mouvement qui a été organisé par les syndicats.
Mais
il n'a pas été organisé par les associations de consommateurs. Il n'a pas été organisé par des fédérations d'entrepreneurs. Donc, vous savez, il faut pas leur demander de régler quelque chose qui a émergé par le biais des réseaux sociaux, spontanément, par Facebook, par Twitter, et qui n'est pas organisé.
François Drugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
François Drugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, est l'invité du Grand Rendez-vous. Les mesures d'aide annoncées cette semaine par le gouvernement n'ont pas réussi à désarmer la colère des Gilets jaunes. Une question de Nicolas Barré.
Oui, alors le gouvernement notamment a annoncé une surprime en faveur des ménages modestes pour les aider à changer de voiture. 4 000 € pour un modèle diesel ou essence et 5 000 € pour une hybride. Ça vaudra aussi, je précise, pour les occasions. Alors, moi je vais être assez concret. Si on achète aujourd'hui un diesel grâce à votre prime, comment est-ce qu'on peut être sûr que cette voiture ne sera pas obsolète dans 4-5 ans et qu'on nous dira, ben non, on peut plus accéder au centre-ville, comme peut-être à Paris, où il y aura des péages, où ces voitures seront interdites à la circulation? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de visibilité donnée par les pouvoirs publics à ce niveau-là?
Nous avons voulu donner de la visibilité, de la prévisibilité,
mais
tout en étant
tout
progressif. Parce que vous savez, la taxe carbone, on aurait pu l'augmenter d'un seul coup en début de mandat et dire après, on ne fait plus rien pendant la durée du mandat. Nous, on a préféré, parce que ça nous paraît tout simplement beaucoup plus juste pour les Français, que ce soit d'ailleurs les ménages ou les entreprises, de faire les choses progressivement. Mais de le dire à l'avance. C'est pas tous les ans, on se repose la question. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut faire aucun investissement, aucun choix économique, que l'on soit un particulier ou qu'on soit une entreprise, si on ne sait pas, en effet, ce qui va se passer dans les 2, 3, 4 prochaines années.
Mais sur la taxation, on a bien compris.
Donc sur les motorisations, vous savez, il y a des normes européenne. Moi, je me suis battu d'ailleurs il y a quelques semaines pour qu'on continue sur le chemin de l'amélioration des normes européennes pour que les voitures consomment de moins en moins et polluent de moins en moins. Donc, on a là une proposition concrète, c'est vous pouvez changer de voiture. Une voiture antérieure à 97, ça c'est pour les voitures les plus anciennes, vieux véhicules essence, mais aussi des voitures qui ont 12 ans d'âge, antérieures à 2006, ça, c'est les vieux diesels, et vous pouvez en acheter une plus récente avec les catégories anti-pollution qui sont aujourd'hui parfaitement définies et qui sont les mêmes aujourd'hui, demain, et elles évolueront en même temps que va évoluer le parc automobile. Donc là, les Français peuvent se dire que s'ils achètent une voiture grâce à cette prime à la conversion, ils vont pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années. Vous savez, mais on nous a beaucoup parlé, on nous a beaucoup parlé des gros rouleurs. À juste titre, puisque c'est pour eux que la facture est la plus lourde. Celui qui va travailler loin de son domicile. Et on nous a parlé parfois de gens qui font 30, 40, 50 kilomètres. C'est pas la norme. Vous savez, la moyenne nationale en France pour le kilométrage des voitures, c'est 15 000 kilomètres par an. Mais là, on va être avec des gens qui vont faire 40, 50 000 kilomètres par an. Donc de toute façon, ce sont des Français qui sont habitués à changer de voiture régulièrement. Et il faut le dire assez fréquemment.
Mais parce que quand vous faites 40 000 kilomètres par an... Mais qu'on a encouragé il y a quelques années à acheter du diesel. C'est ça aussi qu'aujourd'hui les automobilistes
nous sommes
ont du mal
en train,
à comprendre.
Mais progressivement de sortir de cela. Vous savez, il y a quelques années, ou il y a quelques mois même, il y avait des gens qui trouvaient qu'on n'allait pas assez vite, pas assez loin, pas assez fort. Et qui me demandaient que l'on interdise le diesel. Les gens qui disaient ça, ils disaient il faut l'interdire. Là, nous, nous proposons une sortie progressive. Nous proposons de ne plus avoir une fiscalité. Avant, on était dans une situation absurde. On incitait les gens à acheter du diesel par le biais de la fiscalité des carburants. Et même à une époque, en 2008, je m'en souviens très bien, car j'étais député, par la prime à l'achat, où on a incité les gens à acheter des voitures diesel. Aujourd'hui, on va dans l'autre sens, mais on n'est pas pour une interdiction du jour au lendemain.
Acheter des voitures plus propres peut-être, mais encore faut-il pouvoir les utiliser. La proposition d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, de supprimer la circulation totale dans le centre historique de la capitale.
Oui, mais ce sont pour les vieux véhicules, c'est pour des véhicules très anciens. Mais ça montre d'ailleurs...
À terme, elle prévoit, elle imagine pouvoir piétoniser complètement le cœur de Paris.
Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est d'interdire la circulation purement et simplement dans des zones piétonnes.
Non mais madame, il y a le débat en tous les cas.
Oui, mais d'ailleurs, j'imagine que c'est en vue des élections municipales de mars 2020 et qui permettront que les choses soient sur la table et que les Parisiens, comme les habitants d'autres villes de France, pourront trancher. Mais l'exemple de Paris que vous citez est très intéressant parce qu'il montre quoi ? Si on n'agit pas avec le levier de la fiscalité, on peut agir avec un autre levier. C'est celui de la réglementation. Et dire, vous vous débrouillez, mais demain, à partir de telle date, ce sera purement et simplement interdit. Et vous voyez que ça n'est pas mieux ressenti, que ça n'est pas plus juste, parce qu'il y a des témoignages, évidemment, qu'on peut tous recueillir, d'habitants, par exemple, de banlieue, qui vont dire, mais moi, j'ai acheté ou j'ai une vieille voiture, je ne l'utilise pas tellement, donc je vais la garder longtemps, et du coup, ça veut dire que je ne pourrai plus aller dans Paris. Et ce n'est jamais simple de lutter contre la pollution de l'air ou de lutter pour le climat.
Est-ce que vous pourriez aller plus loin, notamment sur le fameux bonus écologique? Pour l'instant, hein, il concerne l'achat d'un véhicule 100% électrique, est-ce qu'il pourrait s'étendre aux véhicules hybrides à partir du 1er janvier prochain et sur quel montant?
Oui, d'abord, il y a le bonus pour les véhicules électriques qui est important puisque c'est 6 000 euros.
Mais
6 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique.
Mais ce sont des véhicules très chers, les véhicules 100% électriques.
Non, arrêtez de dire cela. Est-ce que vous êtes allé dans... Est-ce que vous êtes allé récemment dans une concession automobile? Moi, je suis allé récemment dans une concession automobile.
C'est en moyenne 30 000 euros.
Je suis obligé de donner le nom de la marque, puisque c'est la marque Renault. Et nous pouvons être fiers, nous les Français, d'avoir le groupe Renault qui fabrique en France la voiture électrique qui est la plus vendue au monde, la Zoé. Et la Zoé, aujourd'hui, vous l'avez en voiture neuve autour de 17 000 euros prime déduite. Et vous l'avez en voiture d'occasion à moins de 10 000 euros. Et vous pouvez même, si vous ne voulez pas sortir les 10 000 euros ou les 17 000 euros, vous pouvez l'acheter en location longue durée. Et vous avez des publicités sur votre antenne qui donnent une location longue durée à 130 euros par mois.
Est-ce que le bonus écologique sera de ce montant-là de 6 000 euros ?
Et à part ailleurs, nous voulons, et c'est moi qui l'ai souhaité, après avoir discuté avec les constructeurs automobiles français et étrangers, que nous ayons une extension de ce bonus aux véhicules hybrides électriques rechargeables qui sont en train de se développer, donc, qui ne sont pas aujourd'hui très présents sur les catalogues des constructeurs, mais qui arrivent dans les concessions en 2019, notamment pour le groupe PSA et Peugeot Citroën. Et donc là, ce sera une offre, en effet, et on se situera autour de 2500 euros, sans doute, de primes. Et les constructeurs nous disent qu'ils sont prêts à faire le
à
même effort commercial. Donc vous aurez une capacité à acheter là aussi une voiture avec une réduction, une aide de l'État. C'est concret, vous savez. C'est
quand même ce qui permet d'avoir... Toutes les villes aujourd'hui sont équipées pour recharger ce type de
voiture. Là aussi, il faut dire aux Français, il y a énormément de pédagogie à faire. Pendant des années, on a dit la voiture électrique, c'est pour les centres-villes. Mais c'est l'inverse. Aujourd'hui, la voiture électrique, c'est beaucoup plus pour celles et ceux qui habitent à la campagne ou dans ce qu'on appelle les communes périurbaines, loin des centres-villes, où là, on n'a pas de transport en commun et où on est obligé d'utiliser sa voiture souvent sur de longues distances. Eh bien, quand vous êtes à la campagne ou quand vous êtes dans une maison dans ces communes, vous avez une prise pour recharger votre voiture électrique chez vous. Vous n'avez pas besoin d'une borne de recharge. Je me rends compte que beaucoup de Français croient qu'il faut une borne de recharge. Il faut une prise. C'est plus difficile en ville, quand vous habitez en immeuble,
quand même,
que quand vous êtes...
Une prise particulière.
Une prise normale. Mais non, arrêtez avec ces idées fausses. Moi, j'en ai une. Je sais comment ça marche. J'en ai une. Et donc, c'est une prise normale que vous rechargez pendant la nuit. Et le matin, vous repartez. Vous avez une autonomie aujourd'hui qui va jusqu'à 300 km avec des véhicules
électriques.
Celles-là, elles
sont toutes
neuves. Ne me dites pas que dans vos déplacements quotidiens, vous allez faire plus de 300 km pour aller travailler.
François Drugy, est-ce que vous pensez que la transition énergétique sera vraiment bonne pour l'emploi ou est-ce que tout ça c'est une fable ? Le patron de Volkswagen a dit que ça allait coûter.
Non mais attendez, a dit que ça allait supprimer. Je vais vous parler des créations d'emplois dans les énergies renouvelables, dans les économies d'énergie, dans les nouvelles filières industrielles et artisanales pour l'économie d'énergie ou les énergies renouvelables.
Prenez l'industrie automobile, le patron de Volkswagen dit que les nouvelles normes imposées par Bruxelles vont coûter 100 000 emplois au groupe Volkswagen dans le monde. Il y avait une réunion chez PSA vendredi entre la direction et les syndicats qui s'inquiétaient, les syndicats disent, on s'attend à une très grosse casse sociale parce que tout simplement c'est beaucoup plus simple de fabriquer une voiture électrique qu'un moteur thermique. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait un impact négatif sur l'emploi dans l'industrie automobile du fait de cette transition ?
Et que l'État pourrait accompagner.
Je vous confirme que lors du Conseil des ministres européens de l'environnement, il y a eu un bras de fer avec l'Allemagne. Et je vous confirme que l'industrie automobile allemande a fait un très gros lobbying pour que rien ne change. Je vous rappelle quand même que Volkswagen, c'est le groupe automobile mondiale, d'origine allemande, qui est à l'origine du Dieselgate. Vous savez que c'est quand même ça, par ailleurs, qui a fait que les ventes de diesel en Europe et en France ont chuté. Hein, au-delà de toute considération de fiscalité, tous les constructeurs automobiles vous le diront. C'est le scandale sur la triche, parce que par ailleurs, c'était de la triche sur les normes anti-pollution.
D'accord, mais et là, donc, la question, c'est l'impact social de tout ça.
Ce que le patron du groupe Volkswagen dit, c'est aussi par rapport à ses problèmes d'entreprise.
Mais
ce que je constate, c'est que
chose.
Les groupes français, si on parle des groupes français, et si on parle, ce sont des groupes mondiaux. Vous savez, le groupe PSA, il a un actionnaire chinois, et le groupe Renault-Nissan est aussi un groupe mondial. Et d'ailleurs, un des premiers groupes mondiaux. Eh bien, il s'est engagé, le groupe Renault-Nissan, depuis longtemps dans la voiture électrique. C'est le groupe qui a le plus anticipé, et donc il a créé des entreprises, des usines en France, pour cela, des emplois. La question, elle est sur un sujet concret, qui est celui des batteries. Aujourd'hui, les batteries sont plutôt fabriquées en Asie. En Chine, au Japon, en Corée. Mmh. Et nous voulons développer une filière européenne de la batterie. Et là, on verra si Volkswagen, par exemple, est prêt à être partenaire dans un partenariat européen. Et nous avons en plus, nous, en France, aussi un savoir-faire avec le groupe Total, qui a une filiale dans les batteries. Et si nous sommes prêts à développer une filière européenne de la batterie. C'est ce que nous souhaitons.
François Drugy, une petite question très concrète également liée au réchauffement climatique. Il y a aussi une histoire de chauffage, de cuves et de chauffage pour les Français. Il se trouve que le crédit d'impôt pour la transition écologique a été discuté cette semaine à l'Assemblée. Et parfois, on a du mal à s'y retrouver entre ce que vous essayez d'aider et ce que vous enlevez. Et par exemple, pour changer aujourd'hui ces fenêtres, vous avez supprimé ce crédit d'impôt. Pourquoi ?
Non, c'est pas ça. Nous avons un crédit d'impôt transition énergétique qui a permis l'an dernier à 1 million de Français. 1 million de Français ont fait des travaux dans leur logement grâce à ce crédit d'impôt, avec une aide. Je vous le dis quand même parce que souvent on nous dit ce n'est
mais
pas à l'échelle, on ne fait rien pour les isolations
enlevé,
des logements.
Vous avez diminué et vous avez enlevé dans le projet de budget 2019 un certain nombre de postes,
non,
le changement de
vous
fenêtre.
Vous êtes mal renseigné. C'est l'année dernière. Que des négociations ont eu lieu, ce n'était pas moi qui étais ministre, et il y a eu en effet l'idée de sortir en cours d'année, donc c'est déjà effectif, les changements de fenêtres. Moi, je souhaite qu'on ait une nouvelle négociation avec les professionnels du bâtiment, avec les entreprises artisanales
réintroduites
du bâtiment. Oui, mais je comprends
tout à fait.
Et tout
le monde dit que c'est une bêtise parce que ça concerne beaucoup de Français.
Pour rendre ce crédit d'impôt plus efficace. Pour le rendre plus efficace. Et nous aurons plusieurs sujets.
Donc
la question du simple vitrage. Moi, je pense qu'en effet, il faut sortir. Il n'est pas normal qu'en France, on ait encore des logements où on a un simple vitrage, des logements ou des bureaux, des administrations, y compris celles de l'État. Et par ailleurs, il y a la question des chaudières au fioul. Vous savez que le Premier ministre a dit cette semaine qu'il souhaitait qu'en 10 ans, on sorte des chaudières au fioul pour sortir là aussi de la dépendance au pétrole. 3 500 000 Français se chauffent au fioul. Donc ce n'est pas un petit chantier. Moi, je vais réunir tous les professionnels de la filière pour qu'on travaille ensemble à conduire ce changement, en accompagnant les Français là aussi.
François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, est l'invité du Grand Rendez-vous. François de Rugy, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE, est très attendue. C'est la feuille de route, en gros, qui doit fixer en matière d'énergie la feuille de route de la France pour les 10 ans qui viennent. D'abord, c'est pour quand? Parce que cette feuille de route, elle a été reportée plusieurs fois. On l'attend maintenant pour le 27 novembre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la date?
Oui, c'est notre échéance avant la fin du mois de novembre et donc il y aura plusieurs expressions au plus haut niveau. Le président de la République a souhaité bien sûr s'exprimer sur le sujet,
moi-même
avec le Premier ministre. Il y aura plusieurs expressions qui seront à la fois pour donner le sens général. C'est pas un document simplement administratif.
Ah ben non, c'est très important
un choix
pour savoir
stratégique.
Où va la France.
C'est la
pour
stratégie
notamment, voilà,
de la France pour les 10 ans qui viennent en matière d'énergie.
Et ça notamment va, de baisse savez, du nucléaire.
Oui, mais justement,
est-ce que là, il y aura des annonces
ça y est, vous avez déjà
précises.
Réduit le champ de vision
c'est majeur.
Très très fortement.
C'est majeur,
un
écoutez,
point
enfin...
parmi d'autres. Mais un point important. Non, mais je le dis parce qu'il y a un lien très fort avec toute la discussion que nous avons depuis le début de cette émission autour du pétrole, autour des carburants, autour du chauffage. Tout se tient. Vous savez, notre objectif, c'est de développer les économies d'énergie et de développer les énergies renouvelables. C'est ça les deux axes forts de cette stratégie française pour l'énergie.
Et de
développer
baisser la
les économies d'énergie.
C'était un engagement.
Mais avant de parler de cela, si on ne baisse pas, il faut être concret, si on ne baisse pas nos consommations d'énergie en France, ça veut dire qu'on va continuer à importer massivement du pétrole, du gaz et encore même un peu de charbon. C'est ça aujourd'hui la situation de la France. Et on importe du pétrole, du gaz, du charbon pour d'abord les transports, c'est les carburants, et le chauffage. Et il faut absolument aller dans le sens de baisser ces consommations. Pourquoi? Parce que ça émet, bien sûr, du CO2 qui dégrade le climat. Mais par ailleurs, cela nous coûte cher dans nos porte-monnaies, à nous Français, puisqu'on est dépendant des prix mondiaux du pétrole. Et puis par ailleurs, ça coûte cher à notre économie parce que c'est le déficit commercial de la France qui est plombé par ces importations d'énergie. Et puis après, il y a la question du développement des énergies renouvelables. Et enfin, il y a les conséquences concrètes qu'il faut en tirer sur le parc nucléaire français. Et donc, tous ces sujets seront évidemment précisés dans cette stratégie française pour l'énergie.
Damien Fleurot.
Et alors, justement, vous dites descendre la part de l'atome à 50% du mix électrique. C'était l'objectif sur le calendrier.
C'est ce qu'il y a dans la loi
voilà.
Votée en
donc,
2015.
Donc, l'horizon
qui est
de
notre
2025
cadre législatif.
A été abandonné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce calendrier de façon précise?
Ah mais vous savez, nous allons décrire dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie sur les 10 ans, là aussi des trajectoires. Trajectoire de développement des énergies renouvelables, mais ça va être précis. Hein. Ce sera l'éolien. Qu'est-ce que l'on
attendez,
fait pour continuer à développer l'éolien
50% 2025, c'est oublié. Donc c'est quand l'échéance? C'est
on 2035.
Oui, on est dans ces échéances-là. On
2035
sera, on est obligé de faire une opération vérité. C'est-à-dire que la loi de 2015, elle faisait référence à une promesse de 2012. Et comme en plus, entre 2015 et 2017, il ne s'est pas passé grand-chose, si vous voulez, on a perdu du temps. Et donc, on va refixer le cap avec les échéances,
donc,
en effet.
Qui seront 50% nucléaire en 2035. C'est ça la nouvelle politique.
C'est l'échéance sur laquelle nous travaillons. Mais vous savez que la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc cette stratégie française, elle est sur 10 ans, donc 2018, 2028. Donc il faut que nous soyons capables de décrire ce que vont pouvoir faire les différentes filières, ce qui vont pouvoir se développer. Vous parliez de l'emploi tout à l'heure. Vous savez qu'en France aujourd'hui, il y a 15 000 emplois dans l'éolien. Je pense que si vous m'aviez invité il y a 20 ans, bon, je n'étais pas la même responsabilité.
Dans l'éclair,
on aurait parlé de zéro emploi il y a 20 ans dans l'éolien.
D'accord.
Aujourd'hui, on en a développé 15 000. Vous savez que dans le nucléaire, Orano, la société française qui gère le combustible nucléaire, l'alimentation des centrales en combustible nucléaire, c'est 16 000 emplois, dont 12 000 en France. Vous voyez, 16 000 emplois combustible nucléaire, 15 000 emplois dans l'éolien. C'est ça aujourd'hui la réalité de la France. La France a déjà changé. Maintenant, est-ce qu'elle participe à l'essor mondial des énergies renouvelables ou est-ce qu'elle reste à côté? Est-ce qu'elle laisse passer ce train? C'est ça le sujet de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 ans qui viennent.
S'agissant du nucléaire, la France a fait le choix de la technologie de l'EPR. Il est question d'en construire d'autres. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Bercy, vous souvenez, il y a quelque temps, avait publié un rapport disant qu'on pourrait construire jusqu'à 6 nouveaux EPR en France. Nicolas Hulot y était défavorable. Quelle est votre position là-dessus?
Moi, je dis une chose simple. Est-ce que l'avenir de la filière nucléaire française passe par l'EPR? Parce qu'il y a deux questions en une. Il y a l'avenir de la filière nucléaire française. Moi, vous savez, j'ai plaidé à une époque pour un scénario 100% renouvelable. Ça, c'était, si ça avait été la stratégie de Rugy pour l'énergie.
Donc vous n'y croyez
vous
plus
dites, je me suis trompé ou
vous êtes... Je suis dans un gouvernement.
La stratégie du ministre est différente.
Qui a été nommé par Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, quand il a été candidat à l'élection présidentielle, ce n'était pas son programme. Son programme, c'était 50-50. Donc, on se situe
un
dans ce cadre-là.
Un peu comme Notre-Dame-des-Landes.
Donc,
quoi,
question est posée de l'avenir de la filière nucléaire française. On n'est pas en train, moi je dis les choses clairement et nettement, à travers de cette stratégie, on n'est pas en train d'étouffer la filière nucléaire française. Mais aujourd'hui, son avenir n'est pas garanti. Pourquoi? Il y a eu la faillite d'Areva, il y a quelques années. Elle a été sauvée d'extrême justesse, en étant d'ailleurs séparée en deux sociétés. Une partie a été mise à EDF, ce qui est du coup une responsabilité particulière pour EDF, et l'autre à Orano. Donc, l'avenir de la filière nucléaire française, quel peut-il être? Est-ce qu'il passe par l'EPR? Aujourd'hui, c'est une question ouverte, car, vous le savez comme moi, l'EPR n'a pas encore démontré sa fiabilité technologique, sa sécurité et sa compétitivité
économique. Est-ce qu'on peut attendre
Ah mais vous savez, moi j'aurais le même critère, que ce soit pour les énergies renouvelables ou pour le nucléaire. Fiabilité technologique, est-ce qu'on parle de technologies qui sont éprouvées, qui sont sûres? Et la question de la sécurité pour le nucléaire, c'est une question centrale. Et compétitivité économique. Et je ne parle pas en l'air. L'EPR, il a été vendu, il y a un contrat que EDF a signé avec la Grande-Bretagne et qui dit, dans 10 ans, on fournira une électricité à 100 euros le mégawatt-heure à la sortie d'un EPR. Vous savez qu'aujourd'hui, le prix de gros de l'électricité sur le marché est de 60 euros. Et le prix de l'éolien, le coût de production de l'éolien et du solaire photovoltaïque est autour de 60 euros également. 70 euros pour certains, 55 pour d'autres. Donc on est plutôt sur un prix de marché pour les énergies renouvelables. On ne l'est pas encore pour l'EPR.
Pardonnez-moi, François Trugy, je n'ai pas compris ce que vous alliez défendre votre position auprès du président de la République. Est-ce que vous êtes pour une éventuelle construction de 6 EPR pour sauvegarder notamment la filière française?
Non, je ne vois pas comment. Non, attendez, là, il faut être précis. Je ne vois pas comment on pourrait décider aujourd'hui de commander de nouveaux EPR alors que la fiabilité technologique n'est pas démontrée et que la compétitivité économique non plus. Non. En revanche, la filière nucléaire française nous dit, parce que moi je discute avec la filière nucléaire française, je suis le ministre de l'énergie, c'est moi qui ai la tutelle sur EDF, c'est moi qui ai la tutelle sur Orano. Donc je discute avec tous les présidents de ces sociétés et je leur demande de nous dire quel est votre plan, quelle est votre stratégie pour fiabiliser technologiquement, pour rendre les choses compétitives économiquement. Ils nous disent, oui, on va être en mesure de baisser le coût de production avec l'EPR. Eh bien alors, présentez-nous un plan et ensuite, à ce moment-là, il pourra y avoir un choix. Est-ce que d'ailleurs, ce sera dans ce mandat-ci? Je crois que vu le temps que ça prend, on sera plutôt avec des échéances politiques. En tout cas, d'ailleurs, vous savez que le fameux rapport dont on parlait tout à l'heure parlait d'un choix entre 2021 et 2023.
Oui, mais comme là, on dessine une stratégie sur 10 ans...
Il y a un EPR qui entre en production en ce moment en Chine. Donc la fiabilité technologique est aujourd'hui en train d'être éprouvée.
Il y a un EPR qui est en cours de construction en France. Et je vous rappelle qu'il devait être livré dans le précédent mandat. Il y en a un autre en Finlande. J'ai rencontré récemment le ministre finlandais de l'énergie, mon homologue. Nous en avons discuté. Nous avons la même préoccupation d'ailleurs. C'est d'aboutir parce qu'on ne va pas gâcher cet investissement colossal. 11 milliards d'euros pour ce qui est de la France. Mais en revanche, aujourd'hui, l'autorité de sûreté du nucléaire, vous savez, c'est pas moi qui dis si c'est fiable ou pas technologiquement. C'est l'autorité de sûreté du nucléaire. Et l'autorité de sûreté du nucléaire a demandé à EDF de produire un certain nombre de modifications sur l'EPR avant de pouvoir le mettre en service. Donc c'est dans ce cadre-là que nous agissons. Après, vous savez, moi je sais d'expérience que évidemment c'est normal. Chaque technologie, chaque filière fait son lobbying pour dire il faut faire plus de nucléaire d'un côté, d'autre il faut faire plus d'éolien flottant, plus d'éolien offshore, plus de solaire, plus de biogaz, plus d'hydrogène. C'est normal. Chacun, surtout dans une période comme ça, vient avec sa technologie, avec son modèle et le pousse.
C'est pour ça que ça tarde.
C'est pour ça qu'on a. Et c'est notre rôle d'arbitrer. Eh oui, et c'est notre rôle d'arbitrer, de trouver le bon équilibre pour l'intérêt général des Français. Mais l'intérêt général des Français, je le rappelle, baisse économie d'énergie, baisse des consommations, développement des énergies renouvelables pour pouvoir développer des activités et des emplois sur notre territoire. C'est de l'énergie made in France dont nous voulons. Vous savez, la filière bois, la filière de chaleur renouvelable, la filière de l'éolien, la filière du solaire, etc. C'est de l'énergie made in France.
François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, est notre invité. On continue évidemment à parler dans un instant de transition écologique. À tout de suite.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, est l'invité du grand rendez-vous. Quels efforts nous reste-t-il à faire pour lutter notamment contre le réchauffement climatique? Une question de Damien Fleurot.
Alors, vous allez vous rendre en Pologne le 3 décembre prochain. C'est pour la conférence sur le climat, la COP24. Vous serez accompagné du Premier ministre. Est-ce que la France, sur cette question-là, la parole de la France est-elle encore crédible? Quand on voit, par exemple, le dernier rapport du GIEC qui démontre que on ne réduit pas suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre.
Ah, je peux vous dire que la France est vue partout dans le monde comme leader sur la question
du
climat.
Et pourtant, les spécialistes, les experts nous disent qu'on ne fait pas la part du chemin nécessaire.
Et c'est vrai que par ailleurs, il nous reste du chemin à faire. Vous savez, en France, en Europe d'ailleurs, on a eu une tendance à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre depuis les années 90. Mais ces dernières années, on stagne, voire
alors,
parfois on régresse.
Mais convaincre nos partenaires à l'étranger?
Mais justement, c'est un des enjeux de cette réunion en Pologne au début du mois de décembre. C'est un, de ne pas déraper par rapport à l'accord de Paris de 2015. Et vous savez qu'il y a l'action des États-Unis qui, eux, veulent casser l'accord de 2015.
On dérape déjà aujourd'hui.
Oui, mais heureusement, à la suite du retrait des États-Unis voulu par Donald Trump, aucun grand pays n'a suivi cette voie. C'était un risque extrêmement important. C'est que l'accord vole en éclats moins de 3 ans après sa signature. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a joué un grand rôle pour entraîner tous les pays dans le fait de poursuivre sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour protéger le climat. Au passage, je le dis, vous savez, le climat, le dérèglement climatique, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie ou une réalité pour dans 10 ans ou pour dans 20 ans.
Non, mais c'est ici et maintenant. On dit déjà que 2018, a priori, sera l'année la plus chaude qu'ait jamais connue l'humanité.
Non seulement cela, mais par ailleurs, les dégâts des dérèglements climatiques, nous les touchons du doigt. Regardez ce qui s'est passé dans l'Aude, regardez ce qui s'est passé dans le Var, avec des pluies extrêmement violentes, des inondations qui créent des dégâts.
Alors comment on avance concrètement, lors notamment de cette COP24, alors qu'effectivement, on a déjà exploser, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, les compteurs.
Tout se tient par rapport à ce que nous avons dit depuis le début de l'émission. La fiscalité écologique, c'est un des leviers majeurs pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, dans les transports notamment, et donc pour lutter pour le climat. Vous savez, il y a quelques années, on disait il faut en faire plus pour le climat. Tout le monde était d'accord. Ensuite, il faut donner un prix au carbone. C'est le seul levier pour agir pour le climat. Tout le monde était d'accord. Ensuite, on a dit, il faut une taxe carbone, parce que donner un prix au carbone, ça veut dire une taxe carbone. Là, déjà, il y avait des gens qui étaient moins d'accord pour certains, mais quand même, certains, assez massivement, l'ont voté. Et puis maintenant qu'on la met en œuvre, là, j'avoue que je me sens parfois un peu seul pour la défendre.
L'aide aux pays en développement, à qui on avait promis de l'argent, et qui pour l'instant ne voit rien venir.
Ce sera fait, et enfin, c'est un des enjeux de la conférence. D'ailleurs, le président de la République française s'est vu confier par le secrétaire général des Nations Unies une mission pour développer des nouveaux modes de financement, notamment le financement privé, ce qu'on appelle la finance verte, pour les pays en voie de développement qui doivent s'engager plus fortement aussi dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais vous savez, c'est surtout une lourde responsabilité des pays très fortement industrialisés. Donc, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe, et la Chine et, l'Asie du Sud-Est. Et c'est ce que nous faisons. La Chine, par exemple, il y a 10 ans, moi je m'étais rendu en Chine il y a 9 ans, et à l'époque, les dirigeants politiques chinois disaient, écoutez, c'est à vous de faire les efforts. Aujourd'hui, ils s'engagent. Ils n'ont pas suivi les États-Unis d'Amérique dans leur retrait de l'accord de Paris. Je me rends moi-même en Chine demain pour conforter cette alliance, parce qu'il y a une forme d'alliance mondiale pour le climat qui passe par l'accord entre l'Europe, notamment la France et la Chine.
Nicolas Barré.
Ce sujet du dérèglement climatique préoccupe évidemment nos concitoyens. Est-ce que vous pensez qu'à l'occasion des européennes, ça va permettre à vos anciens amis d'Europe Écologie Les Verts de faire le plein de voix, un peu comme les Verts en Allemagne ont eu de bons scores aux récentes élections?
Oui, enfin, la grande différence entre les Verts en Allemagne, que je connais bien, et les Verts français, c'est que les Verts allemands, ils sont pragmatiques. Vous savez que les Verts allemands, y compris, ils gouvernent avec le centre-droit et les chrétiens-démocrates dans plusieurs régions d'Allemagne.
Et Europe Écologie Les Verts,
alors que les Verts français sont plutôt dans une radicalisation proche de l'extrême-gauche depuis de nombreuses années. Et ils sont plutôt pour s'isoler tout seul dans leur petit coin, comme si on pouvait agir pour l'écologie si on restait tout seul dans son coin. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent leurs responsabilités, qui mettent les mains dans le cambouis, c'est le cas de le dire, sur la question de l'écologie, sur la question du climat. Parce que si c'est juste pour être de plus en plus radical dans ses positions, mais ne jamais prendre ses responsabilités, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, je souhaite qu'au moment...
Les Français semblent adhérer... au moins en partie idées.
Et ce sera le débat des élections européennes, sera un bon moment pour que chacun mette carte sur table. Et carte sur table en termes d'analyse, bien sûr, mais surtout de propositions. Propositions pour la France et pour l'Europe.
Est-ce que oui ou non, par exemple,
vous savez, il faudra être concret. Moi, je conduis une transformation dans le secteur de l'énergie. On en a parlé un petit peu, de l'électricité. On ferme une centrale nucléaire, la centrale de Fessenheim. On va fermer des centrales à charbon, parce que sinon, ce sont des émissions de CO2. Eh bien, sur ces sujets-là, ensuite, est-ce que oui ou non, on est pour le développement des énergies renouvelables? Oui, à quel endroit? Comment? Parce que je vois, par exemple, y compris des Verts, être contre le développement du gaz renouvelable, du biogaz, de la méthanisation, hein, parce qu'à chaque fois, ah ben non, c'est pas assez ceci,
alors,
ah ben non, c'est pas
liste,
assez cela, on peut pas être contre
liste,
tout.
Monsieur de Rugy, une tête de liste écolo pour conduire la liste République En Marche, ce serait un bon signal adressé aux électeurs?
C'est pas une question d'avoir une tête de liste écolo, c'est que cette préoccupation écologique qui, en effet, est de plus en plus forte chez les Français, c'est une aspiration, ils souhaitent que ce soit pris en compte. Pas pour que les choses soient décrétées du jour au lendemain, pas qu'avec évidemment des mesures radicales qui n'ont aucune chance d'être mises en œuvre, mais avec du concret, avec des trajectoires claires. Et bien cela, il faut que évidemment ce soit pris en compte par La République En Marche de façon forte, et je crois que
Pascal
ça le sera.
Pascal Canfin a dit non, le directeur de WWF France. Est-ce que vous avez une autre idée?
Je ne suis pas là en train de faire un casting.
Non, vous connaissez, vous avez des listes aux élections européennes. Vous avez des amis, vous connaissez des personnalités qui pourrait défendre ces idées-là.
Oui, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas moi qui vais constituer la liste aux élections européennes. En revanche, moi, je suis ministre de la transition écologique et solidaire, chacun dans son rôle. Moi, je suis tout à fait prêt à participer activement à cette campagne pour les élections européennes, surtout pas pour être candidat, mais en l'occurrence pour défendre un certain nombre d'idées, par exemple sur la fiscalité des carburants. Est-ce que on ne devrait pas avoir une harmonisation européenne? Est-ce que c'est normal que des pays voisins n'est absolument pas les mêmes fiscalités, alors que nous avons une harmonisation sur la TVA. Ça serait un enjeu écologique majeur, ça serait un levier d'action majeur pour l'Union européenne de dire on va ensemble avoir une politique coordonnée dans le domaine de l'électricité. Nous, évidemment, on fait notre travail pour la France, mais il faut absolument qu'on se coordonne davantage.
Et on parlait avec nos voisins de la
Pologne.
Taxation du kérosène ou de la taxation du fuel lourd pour
exemple,
les paquebots.
Mais bien sûr.
Parce que ça aussi, les Français vous le demandent, on l'a entendu.
Oui, les bateaux, je tiens à le dire, sur les bateaux, sur la marine marchande, nous le faisons. Vous savez, les Français ne le savent pas, donc là aussi, gros travail d'explication à faire. Nous sommes en train de changer les normes sur la navigation, ce qui veut dire que les bateaux vont changer de moteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Ils
vont passer du fuel lourd, d'un produit très polluant, au gaz naturel liquéfié. Ça y est, certains le font. Les nouveaux bateaux, les bateaux de dernière génération, ils sortent avec cette motorisation. Mais des bateaux vont être transformés pour cela. Il faut transformer, là aussi, toute l'économie du secteur maritime. Qui y est prêt? Moi, je l'ai rencontré, le secteur maritime français y participe.
Et le kérosène?
Et sur les avions, c'est évident que, par exemple, là, on ne peut le faire qu'à l'échelle européenne. Mais ça peut être un effet de levier intéressant. Mais là aussi, ce sera un sujet, et le président Emmanuel Macron le dit souvent, est-ce que chaque pays fait sa petite politique dans son petit coin? Et en critiquant tout le temps ses voisins et en essayant de défaire ce qui a été fait à l'échelle européenne? Ou est-ce qu'au contraire, nous mettons nos forces en commun? Est-ce que nous nous coordonnons sur l'électricité? Nous pourrions nous coordonner davantage entre la France et l'Allemagne, entre la France, l'Allemagne et la Pologne. L'Allemagne et la Pologne ont encore énormément de charbon. pour produire leur électricité et donc énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons travailler ensemble et coordonner nos politiques, pas simplement interconnecter nos réseaux, ce qui est déjà une bonne chose, mais coordonner nos politiques. Ce sera un enjeu des élections européennes, en tout cas moi je le porterai.
Je me surprends tous les jours à me résigner, à m'accommoder de la politique des petits pas. À l'heure où la planète devient une étuve, le moment mérite qu'on change d'échelle et de paradigme. Vous savez évidemment de qui est cette phrase, elle est de Nicolas Hulot, c'était le 28 août au moment de son départ. Quelles sont, François de Rugy, vos propres limites à la résignation? Qu'est-ce qui ferait que vous ne suivriez pas la politique d'Emmanuel Macron parce que ce serait trop, par exemple, je sais pas, sur le nucléaire, sur l'histoire, l'affaire de la montagne d'or en Guyane, qui est une affaire très importante. On attend le président de la République, savoir s'il va autoriser cette exploitation qui a des conséquences, qui aurait des conséquences très, très néfastes sur la forêt amazonienne. Où est-ce que vous situez votre limite?
Bah, moi, vous savez, je suis ministre, je l'ai dit, pour l'écologie qui agit. Je suis là pour être dans l'action. Parce que, vous savez, faire des grands discours, des grandes analyses sur tout va mal et tout va de plus en plus mal, ou etc. Ou c'est comme ceux qui disent c'était mieux avant, etc. C'est pas ça qui permet d'avancer. Bien sûr, il faut regarder la réalité en face, il faut être lucide et il faut la dire. Sur le dérèglement climatique, par exemple, il faut le dire. Mais c'est surtout des appels à l'action. Enfin, moi, je vis les rapports du GIEC ou les rapports du WWF, cette grande association environnementale, sur la perte de biodiversité au niveau mondial, et y compris parfois en France, je les vis comme des appels à l'action. Donc évidemment, si je ne pouvais plus agir, ou qu'on me disait il y a un mouvement de protestation sur les carburants, on jette la fiscalité écologique à la poubelle, on arrête tout, comme ça s'est produit parfois par le passé. Évidemment, on se dirait, mais comment est-ce qu'on va pouvoir agir? Moi, je suis là pour agir. Et je pense par ailleurs que pour agir, il faut agir dans la durée. Si aux premières difficultés, on arrête, que ce soit à titre collectif. Première difficulté, on arrête. Vous vous rendez compte, si on avait arrêté aux premières difficultés sur la réforme de la SNCF, on ne l'aurait pas faite. Mais là aussi, tout se tient. Pourquoi on a fait la réforme de la SNCF? Pour que les gens puissent utiliser des trains qui fonctionnent mieux, qui soient plus ponctuels, plus modernes et moins chers. Et moins chers. Et pourquoi il faut que les trains soient moins chers? Pour qu'on utilise moins sa voiture. Et ainsi de suite. Mais il ne faut pas s'arrêter devant les premières difficultés.
Action. Merci François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et très bonne semaine.